Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne Occidentale et Bretagne Sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique,
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Sciencez-vous, nous nous intéressons au projet MOCAMED pour méthode Monte Carlo en physique médicale. Ce projet est porté par, entre autres, Julien Baird. Il a commencé ses études à Besançon par un DEA informatique automatique, puis un doctorat en automatique. Il enchaîne avec un postdoc de 3 ans à Houston dans un laboratoire de biologie où il faisait de la reconstruction d'images moléculaires. De retour en France, il trouve un autre postdoc au LATIM, laboratoire de traitement de l'information médicale à Brest. Il est aujourd'hui titularisé. Avant de parler du projet MOCAMED, Julien Baird nous explique ce qu'on entend par méthode Monte Carlo.
C'est une méthode qui a été développée dans les années à peu près 50. C'est à peu près la même période au Los Alamos, donc c'est la même période de projet Manhattan. On en a un peu parlé dernier temps avec le film Oppenheimer, hein, donc c'est vraiment dans ce contexte historique en fait. Où parallèlement, en 1945, les États-Unis en fait développent le premier ordinateur. Donc c'est l'US Army qui développe ça, c'est l'ENIAC en fait, c'est un premier ordinateur qui a des capacités calculatoires du coup numérique. Et les personnes qui travaillaient justement sur le projet Manhattan, donc que ce soit pour la bombe nucléaire mais également pour de la partie plus réacteur nucléaire tel qu'on le connaît maintenant dans l'énergie, se posaient la question de comment faire des tests sans devoir construire, sans devoir avoir les matériaux et qui met des mois et des mois et des mois. Et la question s'est posée, c'est comment on peut simuler, du coup, je parle de l'interaction de la physique avec la matière, sur un ordinateur. Donc faire ce qu'on appelle de la simulation numérique. Et donc, il y a trois personnes en particulier qui ont développé une méthodologie qui a permis de simuler de façon numérique l'interaction des particules avec la matière. Alors, pourquoi Monte Carlo? Alors, c'est assez rigolo, c'est qu'un des auteurs de cette méthode avait un oncle qui jouait beaucoup au casino. Et comme c'est une méthode qui est dit stochastique, c'est-à-dire qui est basée sur le tirage aléatoire, le casino et le tirage aléatoire, donc c'était assez proche. Et du coup, ils ont décidé de donner un nom à un casino très célèbre, qui est celui, le casino de Monte Carlo, en fait. Donc la méthode de Monte Carlo s'apparente à ce casino. Alors, la difficulté avec cette méthodologie, c'est qu'en fait, en termes de temps de calcul, c'est-à-dire que pour avoir un résultat, ça met énormément de temps sur un ordinateur, même sur les ordinateurs classiques maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur des tirages aléatoires. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va simuler particule par particule son interaction dans une machine, dans le corps humain, si on fait de la santé. Donc ce temps de calcul en fait est un verrou majeur dès le début pour avoir des résultats rapides. Par contre, c'est très précis, hein, c'est la façon vraiment absolue d'avoir d'estimer comment les particules interagissent dans la matière, hein. C'est des simulations qui sont toujours utilisées aujourd'hui, notamment avec le CERN pour designer leurs machines, pour faire de l'expérimental, etc. Donc en gros, ça fait presque 70 ans que les chercheurs essayent d'améliorer cette efficacité de calcul, c'est-à-dire d'avoir un résultat qui est plus rapide, mais qui est juste, pour différentes applications. Dans l'application médicale, c'est plutôt dans les années 70 que Monte Carlo s'est développé, où on a commencé à utiliser notamment avec la radiothérapie, c'est-à-dire utiliser les particules justement pour soigner, où on n'a aucun moyen aujourd'hui de mesure directe de savoir quelle a été l'irradiation qu'on donne à quelqu'un à l'intérieur des tissus. Donc la seule façon, c'était d'utiliser la simulation numérique. Donc dans les années 70, on dit on peut utiliser également ces types de méthodes pour estimer ce qu'on appelle la dose, en fait, c'est l'irradiation donnée dans les tissus, pour améliorer le traitement, c'est-à-dire personnaliser le traitement. Ne pas donner la même exposition à tout le monde, mais essayer de calculer au mieux, par simulation, un traitement qui est personnalisé. Donc c'est autour des années 70. Malgré aujourd'hui l'avancée des ordinateurs, de l'utilisation des cartes graphiques, par exemple, pour améliorer Monte Carlo, ça reste encore aujourd'hui un verrou majeur pour l'utiliser dans le domaine de la santé. Qui me fait arriver au fait que Mohamed, le projet est dans ce contexte-là, qui est comment améliorer la simulation Monte Carlo pour des applications de santé.
Si on revient à la genèse du projet, c'est parti d'où, l'envie, avec qui, est-ce que c'est voilà, de votre fait, c'est sorti juste de votre imagination, est-ce que c'est tout un groupe de personnes, comment ça s'est passé?
Alors la simulation Monte Carlo, c'est un thème fondateur de l'axe que je dirige, donc c'est pas, ça fait des années qu'on travaille dessus, ça fait presque, moi je suis arrivé il y a 10 ans à peu près, donc ça, un petit peu plus, donc ça fait depuis ce temps-là que je travaille dessus. Et on a notamment participé à quelques des années en arrière à l'évolution de la simulation Monte Carlo en utilisant des cartes graphiques pour accélérer. Donc c'est un petit peu normal, c'est juste une continuité de nos travaux qui a été de bah, c'est quoi l'étape d'après pour continuer d'améliorer les choses. Alors bien sûr ce n'est pas juste le LATIM, hein, un projet c'est toujours un des partenaires académiques, c'est des collègues en fait, parce qu'on est plusieurs à travailler sur la thématique. Alors Monte Carlo en santé, on n'est quand même pas nombreux, même au niveau mondial, c'est très très spécifique. Des gens à l'utiliser, il y a beaucoup de personnes, que ce soit industriels, système pour la médecine, tout ça, mais des gens qui développent vraiment le cœur du système, on n'est pas nombreux. Donc là, c'est réalisé avec des collègues qui sont à Lyon. Donc il y a un laboratoire qui est le Creatis, qui est un petit peu le pendant de notre laboratoire, mais côté lyonnais. Donc eux, c'est plutôt des gens qui font des académies, qui font plutôt de la méthodologie sur Monte Carlo, dans le domaine de la santé. Et il y a un autre laboratoire qui est le LIRIS, également à Lyon, qui est plus un laboratoire, cette fois-ci, d'informatique. Pur et dur. Ils font pas de Monte Carlo pour la santé, mais Monte Carlo, c'est également utilisé dans d'autres domaines, pas que la santé et pas que le nucléaire, également dans l'animation graphique, dans l'infographie, exactement, pour faire des éclairages sur des films d'animation. Donc eux, ils sont spécialisés dans le domaine d'animation, plutôt. Donc ils travaillent avec des gens comme Disney, comme Pixar, etc. Et ils étaient intéressés d'utiliser les méthodes qu'ils développent pour eux, leur Monte Carlo, à l'appliquer dans la santé. Donc voilà, donc on a un groupe de 3 partenaires. Chaque partenaire, c'est un ensemble de personnes, hein. C'est un groupe avec des étudiants, des permanents, etc., qui essayons de travailler autour de ça. Et ça a été vraiment dans une suite logique des travaux déjà qu'on mène en permanence ici.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Alors sur la partie santé, il y a quand même trois grandes parties d'application. La première application, c'est la radiothérapie. C'est-à-dire que si on est capable, alors étant donné que Monte Carlo, c'est vraiment quelque chose qui est très précis et très fidèle sur la déposition, sur l'exposition des particules dans la matière, la fin de Mohamed, si on est capable d'avoir une simulation rapide, on va être capable d'améliorer du coup le traitement. Dans le domaine de la radiothérapie, ce qu'on essaie de faire, donc le principe c'est, voilà, on a une source radioactive, on va irradier le patient, mais de façon très locale, notamment sur la tumeur cancéreuse, afin de pouvoir l'éradiquer. D'accord ? Ce qu'on essaye de faire quand on veut améliorer la dosimétrie comme on l'appelle, c'est en fait de maximiser sa valeur dans la tumeur, pour la tuer de façon assez agressive, mais on cherche également à minimiser, donc à réduire la dose qui est percée au tissu sain. Pourquoi ? Parce que ça va apporter de la toxicité et des effets secondaires. Ce qu'on cherche quand on fait notamment de la radiothérapie, c'est pas simplement soigner du cancer, mais c'est aussi faire en sorte que la qualité de vie du patient soit après la meilleure possible. Et avoir un calcul de dose qui est assez précis, par estimation, par simulation, ça renforce la diminution en fait, des effets secondaires dans ce type de traitement. Donc Mohamed va permettre d'introduire la simulation Monte Carlo en clinique, parce que ça sera rapide. Je veux dire, une simulation Monte Carlo classique, c'est à peu près 20 heures pour faire un calcul. Donc on comprend bien qu'en traitant un patient, on n'a pas 20 heures à passer sur un gros ordinateur pour faire ça. Donc si on a un calcul qui est très rapide, je parle de la minute, même ça peut aller à la seconde, on va être capable d'avoir un calcul de dose plus précis et du coup mieux soigner en termes de radiothérapie. Donc là, tout type de radiothérapie, hein, donc il y a la radiothérapie externe, ce qu'on appelle les rayons, comme on les appelait avant, il y a la radiothérapie interne, comme la curithérapie, où on place des grains radioactifs par exemple dans différents organes. Il y a de la radiothérapie interne vectorisée également, c'est-à-dire qu'on vous injecte un produit radioactif qui va venir se fixer sur des tumeurs. Voilà. Donc toute cette gamme de radiothérapie, Mohamed va permettre d'améliorer ça et du coup le traitement et les effets secondaires. La deuxième grande thème que Mocamed peut apporter, c'est également tout ce qui est en radioprotection, imagerie médicale. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'imagerie médicale, c'est également, ça utilise également des rayonnements ionisants, donc des particules. Je pense au scanner, hein, c'est une rayon X, une radiographie, c'est des rayons X. Un peu moins connue, l'imagerie en médecine nucléaire, comme la tomographie par émission de positons, qui est très utilisée dans le domaine de l'oncologie. Donc c'est quoi ? On vous injecte un traceur radioactif qui va venir se fixer sur les tumeurs et on va capter ensuite les particules qui sortent de votre corps pour déterminer la position exacte et savoir ou pas si vous avez une tumeur. C'est vraiment l'outil de base pour faire du diagnostic et du suivi thérapeutique en oncologie. Donc étant donné que ça utilise des particules, ça dépose de l'énergie, ça vous irradie. D'accord, c'est l'effet un peu, pas délétère, mais c'est l'effet un petit peu négatif de l'examen médical. On le fait parce que c'est un bénéfice quand même, notamment en termes de diagnostic. Mais du coup, il est important d'estimer en fait quelle a été l'irradiation, c'est surveillé, c'est contrôlé, tout d'abord légalement. Hein, il y a un devoir de donner la dose qui a été reçue par le patient pour tout examen médical. Donc Mocamed, encore une fois, ça va permettre d'avoir des estimations plus rapides et plus précises sur, on va dire, l'irradiation d'une personne sur une imagerie médicale qui utilise des rayonnements ionisants. Et la troisième et la dernière, qui est assez liée aux deux autres, c'est tout ce qui est radioprotection. Radioprotection, c'est-à-dire que quand on est en présence d'une source radioactive, on risque une exposition. Et encore une fois, c'est une exposition qui n'est pas utile, qui n'est pas bénéfique, et il faut l'estimer, et Mocamed permettra de l'estimer de façon précise et également plus rapide. Alors radioprotection, j'ai quelques exemples, hein. Souvent en radioprotection, on pense plutôt au domaine industriel, centrales nucléaires, choses comme ça, ils ne sont pas beaucoup irradiés, parce que c'est très contrôlé et puis très surveillé. Là où on pense le moins, c'est notamment dans le domaine de la santé. Par exemple, si vous allez au bloc opératoire, dans des applications cliniques type cardiologie vasculaire, il y a un système d'imagerie par rayon X qui permet de faire de l'interventionnel, c'est-à-dire pendant qu'on vous passe quelque chose dans vos veines, on peut voir où est-ce que vous êtes, donc on utilise une radiographie en permanence, on appelle une fluoroscopie, c'est un film en fait. Donc ça irradie le patient, mais du coup ça irradie aussi l'ensemble des gens qui sont dans la salle opératoire. Donc le personnel médical, tous les jours, hein, est exposé en fait au rayonnement ionisant. Donc ça, c'est des applications de radioprotection où, grâce à Mocamed, on va pouvoir déterminer de façon précise quelle a été l'exposition, à quel endroit exact, en telle quantité, et de façon bien applicative, puisqu'on le fera de façon rapide grâce au projet.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Concrètement, comment la recherche elle est organisée ? Comment vous travaillez avec les autres laboratoires ?
Déjà, dans un laboratoire, comment ça fonctionne ? Donc, le différent type de personnel déjà qu'on a à l'intérieur d'un laboratoire. Donc, il y a des gens qui sont permanents, c'est-à-dire que eux, c'est leur travail de faire de la recherche en permanence. Il y a des permanents plutôt chercheurs, plutôt comme moi, qui sont 100% recherche. Il y a aussi des enseignants-chercheurs. Donc ça va être les professeurs, les maîtres de conférences à la fac, par exemple, qui ont une partie de charge enseignement et qui font un petit peu également de recherche en parallèle. Ensuite, on va avoir plutôt les étudiants, c'est-à-dire que nous, dans un laboratoire, les gens qu'on va former, hein, c'est un petit peu comme un compagnonnage, hein, on a ce qu'on appelle des thésards, c'est des doctorants, des gens qui préparent leur thèse, ça se prépare en 3 ans, donc du coup qui vont rester 3 ans avec nous sur un sujet particulier où on va les accompagner et au bout de ces 3 ans après ils doivent donner résultat de leurs travaux à la fois sur un rapport et sur une présentation pour avoir leur diplôme en fait. Ensuite il y a un deuxième type d'étudiants, c'est les étudiants qui sont après cette thèse qu'on appelle les post-doctorants, qui sont des gens considérés un peu plus comme déjà chercheurs parce qu'ils ont déjà passé par une étape de 3 ans de recherche, en fait, d'apprentissage, on va dire, qui, eux, sont beaucoup plus autonomes, du coup, mais qui vont travailler également sur un point particulier, et souvent, ils vont se spécialiser, en fait, sur quelque chose également de particulier. Donc, au niveau local, ça s'organise comme ça. C'est-à-dire qu'on est responsable, on collabore avec les différents étudiants postdoctorants sur différents sujets, voilà, pour faire avancer un projet particulier, une thématique. Là, c'est un projet, mais qui s'inscrit dans une thématique. Donc, la thématique, nous, Monte Carlo, il y a différents autres projets, mais là, c'est un projet particulier. Voilà, donc on travaille sur ces aspects-là. Ensuite, avec les collègues partenaires, on a chacun un peu notre spécialité, on va dire. Par exemple, les collègues lyonnais sont plus sur la partie imagerie. Donc, améliorer Monte Carlo, le calcul de dose, mais sur les systèmes plutôt d'imagerie. Nous, on est plus sur la partie radiothérapie. Donc après, sur la collaboration, on fait des réunions par visio. On en fait une, notamment une fois par mois, où on discute des avancements, de « moi, j'ai tel problème, ah, bah, voilà comment on a fait ». Voilà, y a un échange scientifique. À la fois, il y a un échange scientifique, mais il y a également un échange, on va dire, plus management de projet. Parce qu'on a beau être chercheur, une grosse partie du temps, c'est pas que la science, c'est surtout du management d'équipe, du recherche de financement. Et une fois qu'on a le financement, il faut donner ensuite des preuves de l'avancement par rapport à nos financeurs, etc. Donc il y a un aspect aussi management. Donc quand on fait les réunions avec les collègues, on a une partie qui est plutôt scientifique. Chacun présente à tour de rôle les avancées, on discute scientifique. Ensuite, on va parler plus. Ben voilà, il nous reste 2 ans, on a un livrable à donner à telle date, où est-ce qu'on en est? Ah, il faudrait peut-être l'écrire, machin. Voilà. Donc, c'est assez structuré quand même. Après, on est habitué parce que la forme de la gestion d'un projet au sens laboratoire, que ce soit Mokemed ou un autre, c'est toujours un petit peu pareil. Hein. On aura toujours des doctorants, des post-doctorants, des projets, etc.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Alors les difficultés souvent méthodologiques, ça peut arriver dans le sens où, parce qu'on part toujours d'une hypothèse. On ne le sait pas à l'avance, sinon ça ne serait pas de la recherche. Donc on part d'une hypothèse et il peut arriver que cette hypothèse ne soit pas aussi possible à réaliser ou avec des résultats aussi intéressants qu'on le pensait. Ça arrive récemment. Hein. Pour nous, c'est pas forcément un problème parce que le fait de montrer que ça marche pas, c'est un résultat en soi. C'est-à-dire que une autre partie importante de la recherche, c'est la publication. Hein. C'est-à-dire que si on publie ces résultats-là, d'autres chercheurs vont savoir qu'il faut pas s'engager dans cette voie-là. Ils vont aller dans d'autres voies pour avancer le problème. Donc souvent, la difficulté... Alors là, par exemple, dans Mokamed, on avait une méthode qu'on pensait que ça allait bien marcher, qui n'a pas très bien marché. C'est pas grave, on a changé de fusil d'épaule. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on comprend le problème, plus on a des solutions qui arrivent. C'est-à-dire que ce qu'on envisageait comme solution du départ du projet, c'est plus les solutions qui sont maintenant, qui sont toujours dans la veine du projet, mais elles ont évolué du coup. Donc même si cette méthode qu'on prévoyait n'a pas marché, on en a trouvé d'autres qui marchaient beaucoup mieux. Voilà, c'est la recherche, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un chemin tracé, on va à gauche, ah non c'est pas gauche, on va tout droit, non, voilà. On a différentes étapes à la fois intellectuelles sur la compréhension du problème, mais également sur les méthodologies. Parce que ça, en fait, ça met du temps de mettre des choses en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la recherche, c'est pas souvent l'idée du chercheur qu'on a. Si on a un tableau, on fait des équations, ça, c'est fini ce temps-là. Les gens, ils font du code, ils développent leurs solutions. On fait beaucoup de numérique. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai une hypothèse et qu'on pense tester une solution, et le temps de développement, le temps de tester, il peut s'écouler beaucoup de mois. C'est pas juste j'ai une idée, je teste, hop, je passe à autre chose. Donc on a aussi le temps de développer et les résultats, même si ça marche, les résultats sont pas à la hauteur qu'on prévoyait. Voilà, différentes difficultés. Ensuite, les autres difficultés qu'on peut avoir plus sur le management de projet, et c'est une chose qui est très importante, parce que c'est mon quotidien de tous les jours, c'est par exemple recruter des gens. On a quand même beaucoup de difficultés à recruter des post-doctorants. En ce moment, un petit peu moins des thésards. Il y a eu quelques années en arrière, c'était des thésards. Maintenant, je trouve qu'on trouve des gens qui sont motivés à faire des thèses. Post-doctorants, alors ça vient de quoi ? Il n'y a pas beaucoup de postes permanents après. Donc forcément, les jeunes ne sont pas forcément motivés. Ils préfèrent aller directement dans le privé, dans l'entreprise. Donc recruter des gens, et souvent dans les projets, on a eu le cas d'un Mokamed, mais dans d'autres projets, c'est la même chose, c'est qu'on a un petit peu de retard. Parce qu'entre le moment où on a le projet et qu'il faut commencer, on a du mal à recruter et du coup on trouve les gens un petit peu en décalage. Après, ça se fait bien, on trouve des gens. Voilà. Nos financeurs, ils sont assez compréhensifs sur ces... Ça, c'est un projet ANR qui est l'Agence nationale de la recherche. C'est des gens qui comprennent le problème, ils ne sont pas à côté de la réalité terrain, en fait. Donc, c'est assez flexible pour dire, bon, voilà, on a 6 mois de retard, il faudrait 6 mois de plus. Un budget constant, bien sûr. voilà, c'est plutôt les, voilà, la difficulté, c'est ça. C'est à la fois méthodologique, c'est pas très grave, et à la fois un peu plus management, projet, voilà.
Est-ce qu'il y a déjà des résultats ou des avancées sur lesquelles on peut communiquer, que vous pouvez nous présenter ?
Alors, un point important dans Mocamed que je n'ai pas parlé, c'est la méthodologie qu'on a privilégiée, en fait, pour accélérer Monte Carlo. C'est un peu la grande tendance aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc les résultats qu'on a actuellement, qu'on présentait, c'est ça. C'est l'utilisation notamment de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est un domaine de l'intelligence artificielle, qui nous a permis d'accélérer la simulation Monte Carlo. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça marche. La façon dont on le fait, c'est qu'on va faire une simulation Monte Carlo qui va être très courte, dégradée. Alors, ça ressemble à quoi une simulation Monte Carlo dégradée ? C'est qu'on va avoir une image, mais il va manquer de l'information. Il va y avoir des trous dans cette image. Hein. Ce qu'on appelle, nous, du bruit. Mais en fait, on va utiliser l'intelligence artificielle pour que lui, il retrouve une image de meilleure qualité. Ce que ça apporte, en plus d'améliorer cette qualité, c'est qu'avoir fait une simulation très courte, c'est vraiment très très courte. C'est-à-dire, au lieu de calculer 20 heures, on va simplement la faire en 20 secondes. Et l'intelligence artificielle va retrouver une image de qualité en également 20 secondes. Donc la totalité, en une minute, on a une belle image alors qu'il aurait fallu avoir 20 heures. Toute la difficulté de cette méthodologie également, et c'est important, on fait le domaine médical, c'est de vérifier qu'on a la bonne réponse. C'est ce qu'on appelle la validation. Parce qu'au départ, l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est génération d'images, on voit beaucoup sur Internet, c'est plutôt transformer un cheval en zèbre, etc. Donc c'est du fake, en fait, c'est de l'imaginaire. Donc dans le domaine médical, on ne peut pas se permettre de ça. On ne peut pas se permettre que l'IA nous invente des trucs qui n'existent pas. Et toute la difficulté et la finesse des choses, c'est comment régler ça et de vérifier ça, que ce qu'on améliore, ce qu'on prédit avec l'intelligence artificielle, ça correspond bien à ce qu'on était censé avoir. Pour nous, c'est facile de vérifier, hein, parce qu'on fait un calcul Monte Carlo qui va durer 20 heures. Donc on a la réponse et on peut la comparer tout de suite et faire des réglages. Donc ça c'est un des résultats, par exemple, qu'on a dans le projet Mocamed.
On peut peut-être faire un petit point de définition sur ce qu'on entend par intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très flou, je pense, pour plein de gens. Il y a plein de choses différentes. Du coup, dans ce projet Mocamed, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ?
C'est vrai que l'IA, ça cache en fait beaucoup de choses. Hein. Surtout que nous, ce qu'on utilise, ça va être ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors l'apprentissage profond, comment ça marche en fait ? Pour moi, c'est comme un super modèle. Chez nous, un modèle, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va remplacer une tâche ou qui va permettre de faire un calcul particulier. Donc comment ça marche en fait, on peut voir ça comme une boîte noire, hein, vous avez donc une boîte qui est l'apprentissage profond, c'est que c'est une machine, c'est un algorithme qui va permettre d'apprendre de lui-même. Et pour nous, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que souvent, quand on a des modèles mathématiques à faire, il faut les faire à la main. C'est-à-dire, il faut mettre des équations, il faut regarder les paramètres. Et quand, du coup, on a des choses qui sont vraiment très, très, très compliquées, ben, on n'arrive pas à trouver un modèle qui correspond bien à ce qu'on veut faire. Là, le fait d'avoir un système qui est apprentissage profond, qui va apprendre par lui-même, ça permet d'avoir un modèle avec une grande complexité, sans trop avoir besoin de le paramétrer, finalement. C'est pour ça que cette boîte noire a également ses intérêts. Alors, ça a des avantages également. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, du coup. Mais ça a des avantages. Donc, nous, comment on fait ? C'est ça, c'est qu'on va créer plein de données, parce qu'il faut apprendre. Donc, il faut apprendre sur de l'expérience. C'est comme quelqu'un qui apprend quelque chose. Il faut apprendre sur de l'expérience, sur quelque chose qui lui permette de comprendre ce qui se passe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de simulations Monte Carlo, avec plein d'exemples différents, dans plein de configurations différentes. On va créer une grande base de données qu'on va appeler une base de données d'entraînement. D'accord ? Ça va être pour entraîner l'apprentissage profond. Profond, pourquoi ? Parce que dans le domaine notamment des paramètres qui vont être utilisés, il y a différentes profondeurs, en fait, un peu de sémantique qui sont utilisées. Elles sont très, très profondes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de répondre à des problématiques très complexes. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur. À partir de cette base de données d'apprentissage, on va lui donner à manger. il va apprendre. Alors comment il va apprendre que c'est la bonne réponse? Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la base de données d'apprentissage, à chaque cas de figure, on lui a mis la réponse. D'accord? Donc par exemple, si on lui donne des images de chat, à côté, on va écrire « c'est un chat ». S'il y a des images de chien, on va dire « c'est un chien ». Avec plein de chiens différents, avec plein de chats différents, dans des contextes différents, voilà. Et on lui donne à manger, il apprend. Ça met un petit temps, hein, parce qu'il y a... C'est itératif, c'est-à-dire qu'il va donner la réponse, il va recomparer, il ne trouve pas que c'est tout à fait juste. Donc il va changer ses paramètres à l'intérieur par lui-même. C'est pour ça que c'est de l'apprentissage, il apprend de lui-même. Juste attendre d'avoir quelque chose, une structure de modèle avec des paramètres qui, à chaque fois qu'il a un nouveau cas, un nouveau chien, il est capable de donner la réponse correctement. Alors il n'y arrive pas tout le temps, hein, c'est pas non plus un miracle, mais globalement il arrive à trouver quelque chose du résultat. Et là où c'est intéressant, c'est que maintenant vous enlevez toutes ces données et vous donnez un nouveau chien qui n'était pas dans cette base de données. Alors faut pas que le chien soit complètement différent non plus, hein, je veux dire, quoi, je sais pas, si vous apprenez une langue, le français, si vous avez jamais fait d'anglais, vous allez pas la deviner. Et là c'est la même chose en fait. Mais si vous voulez, vous allez donner un nouveau chien qui est dans un contexte peut-être différent, qui a une tête un peu différente, il va être capable de trouver que c'est un chien. Alors c'est des méthodes qui sont utilisées depuis longtemps, hein, parce que la méthode d'intelligence artificielle telle qu'elle, elle est utilisée notamment depuis longtemps par la poste pour pouvoir lire l'écriture sur les lettres et pouvoir faire le triage sur les destinations. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un à la poste qui lit, si vous écrivez mal, aujourd'hui, qui va lire, ah, c'est une intelligence artificielle, ça, c'est depuis des années, en fait. Sauf que la différence aujourd'hui dans l'apprentissage profond, c'est que le nombre de paramètres qu'utilisent pour ce modèle est beaucoup plus grand et ça nous permet d'avoir de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. C'est tout, en fait. C'est la grosse différence avec maintenant. Et ça, si on est capable de le faire, c'est aussi avec l'avancée technologique, comme la puissance de calcul des ordinateurs, les cartes graphiques, etc. Donc, nous, on l'utilise comme ça, c'est-à-dire qu'on va créer une base de données, et l'intelligence artificielle, en fait, il va apprendre une tâche particulière, que ce soit trier un chien, un chat, ou alors sa tâche particulière de j'ai une image qui est dégradée, de retrouver une image de bonne qualité. C'est ce qu'on fait pour la dosimétrie. Donc voilà, nous on l'utilise dans ce contexte-là.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Comment va se passer la suite?
Alors la suite, elle arrive assez rapidement, puisqu'il reste moins d'un an sur le projet. Donc là, ce qu'on est plus en train de faire, c'est qu'on a différentes méthodologies. Ce qui est intéressant également sur la partie recherche, c'est qu'on développe de la méthodologie, c'est-à-dire qu'on développe une nouvelle idée, par exemple. Mais après, on essaie de l'évaluer et de montrer son impact sur différents cas de figure, sur différentes applications. Donc là, on est plutôt sur cette phase-là dans Mocamed, c'est-à-dire qu'on a par exemple développé des méthodes IA pour améliorer le calcul Monte Carlo. Là, on est en train de les décliner et de les tester dans différentes applications. Applications à la fois en radiothérapie et en imagerie. Donc là, maintenant, c'est de montrer, OK, voilà, on a un algorithme, on a quelque chose qui marche, mais quel est le vrai impact? Parce que le but, c'est de vraiment avoir un vrai impact sur ce qu'on veut faire, hein, sur un sujet, notamment le domaine de la santé. Quel est l'impact sur demain pour le patient, pour le clinicien, etc. Donc là, on est vraiment dans cette phase de... On prend des cas de figure particuliers en radiothérapie. Alors nous, on est assez cancer de la prostate, donc ça va être de la radiothérapie externe pour le cancer de la prostate, ou de la curethérapie pour la prostate, où on insère des grains radioactifs à l'intérieur de la prostate pour faire du traitement de cancer. Ou de l'imagerie comme l'imagerie rayon X pour faire du diagnostic. Donc là, on commence à tester ces différentes applications et on va dire, voilà, pour telle application, avant c'était tant de temps, avec une certaine précision. Aujourd'hui, avec la nouvelle méthode, c'est tant de temps de gagner avec tant de précision.
Vous avez déjà tiré des leçons, des enseignements depuis le début de ce projet Mocamed?
Alors les enseignements surtout qu'on a eus, c'est sur l'intelligence artificielle en fait, sur l'apprentissage profond pour être plus précis. C'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu pressenti avant, parce qu'il y a quand même une littérature sur d'autres applications dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup utilisé pour le traitement d'images, hein. C'est-à-dire remplacer une tâche comme contourer des organes ou... dans le domaine médical, parce que ça demande du temps, et donc voilà. C'est en fait la leçon qu'on a, c'est que les données, ça paraît logique, hein, mais les données qu'on a pour entraîner l'intelligence est plus importante que l'architecture ou que le modèle qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on a une base de données d'entraînement qui couvre bien tous les cas de figure, on va avoir un bon résultat. Et la difficulté, c'est ça. C'est comment savoir qu'il y a tous les cas de figure. Je vous donne un exemple tout bête. En radiothérapie, vous faites une radiothérapie pour le thorax ou l'abdomen. La plupart des patients, ils sont normalement constitués. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient, il lui manque un rein, par exemple, parce qu'il a eu une opération avant. Si ce n'était pas prévu dans la base de données, l'algorithme, il va avoir beaucoup de mal. Il va trouver quelque chose, mais il va avoir beaucoup de mal à atteindre le niveau de précision qu'on voulait. Donc, en fait, maintenant, toute la difficulté avant, c'est que on se positionnait plutôt sur l'amélioration de l'architecture du modèle IA, et maintenant, on n'est plus sur comment définir correctement les bases de données d'apprentissage pour couvrir l'ensemble des cas de figure, notamment dans le domaine médical. Et si on n'est pas capable de le faire, eh bien de bien borner la partie applicative de l'outil qu'on a développé. C'est-à-dire que si on sait que ça marche que sur l'abdomen, parce qu'on a fait de l'abdomen, on va pas aller sur utiliser pour faire de la tête, par exemple. C'est sûr qu'on va pas le faire, mais de façon plus contrainte, on va faire très attention dans quel cas de figure on va utiliser l'outil. Chose qu'on ne pensait pas en fait au début du projet.
Il me reste à vous remercier alors, Julien Bert. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne Occidentale et Bretagne Sud ou de l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Sciencez-vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.